hors champ. Orchamp, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchamp ce soir en compagnie de Mati Diop. Mati Diop, vous êtes cinéaste, vous êtes actrice, vous êtes l'auteur d'un très beau film qui va sortir et qui s'intitule « Mille soleils » dont nous allons parler ce soir. Mais je voulais savoir dans quel milieu vous aviez été éduquée, parce qu'avec un oncle très connu, avec un père musicien, est-ce qu'il était normal et cohérent d'embrasser une carrière artistique très jeune ?
Eh ben,
vous
oui,
n'avez pas
finalement
eu à choisir ?
En fait, c'est plutôt justement parce que j'ai pas su choisir un art parmi les autres que je suis allée vers le cinéma, en fait. Je pense que j'étais aussi attirée par l'image que par le son, que par la peinture, que par la danse, les corps, et que finalement, après être passée un peu par tous ces outils, mais c'est vraiment le cinéma qui s'est imposé au fur et à mesure, quoi.
Mais auparavant, il y a eu l'école du Frénois.
L'école du Frénois, c'est presque arrivé en fin de... En fait, moi, je suis autodidacte. J'ai fait un film à 24 ans. Je n'avais pas fait d'école de cinéma. J'avais été un peu assistante à la mise en scène et photographe. Et en fait, j'avais pas envie d'apprendre à faire des films à l'école. J'avais vraiment envie d'apprendre à en faire en faisant. Et le Frénois, c'est presque quelque chose que j'ai choisi en étant davantage certaine de ce dont j'avais vraiment envie, quoi. En ayant affirmé un langage propre avant de... J'avais peur d'être du formatage, quoi. Donc j'ai vraiment reculé le moment de l'école le plus tard possible.
Donc vous avez appris par vous-même, mais vous étiez dans un milieu familial tel que la nourriture intellectuelle et artistique vous était donnée.
Oui, c'est vrai que ça circulait de façon très fluide. C'était là, j'ai baigné dans le son, dans les images. C'était vraiment mon environnement permanent. Je pense que la double culture y est aussi pour beaucoup, quoi. J'ai grandi entre un endroit et un autre, entre l'Afrique et ici.
Donc l'Afrique, c'est le Sénégal.
Ouais, le Sénégal.
Et vous avez reçu
aussi une
éducation sénégalaise et vous parlez la
langue.
Non,
absolument pas. Alors, j'ai pas du tout reçu une éducation sénégalaise, j'ai reçu une éducation française. Mon père m'a pas vraiment transmis, dans la façon dont on pourrait s'imaginer qu'un père sénégalais transmet sa culture à son enfant. Non, c'est pas du tout. Je pense que c'est qu'inconsciemment, il a préféré laisser ses enfants venir à cette culture, à cette histoire par eux-mêmes. En tout cas, moi, c'est vraiment c'est mon cas, quoi. Moi, je me suis vraiment, je suis allée au Sénégal régulièrement enfant, donc j'ai un lien avec ma famille fort, quoi. Je me sens très à l'aise là-bas, mais j'ai vraiment le sentiment d'être allée chercher mon histoire et mes origines par moi-même assez récemment finalement, d'ailleurs c'est un peu de là dont Mille Soleils vient. C'est le moment où j'ai commencé à m'interroger, quoi, sur ses origines, cette histoire de cinéma aussi. Et c'est ça qui a donné naissance à ce film, en fait.
Alors il faut expliquer que votre oncle, c'était Djibril Diop Mambéty, qu'il est l'auteur d'une œuvre cinématographique très importante.
Ouais.
Est-ce que vous avez eu l'occasion, dans votre adolescence, de voir certains de ces films ?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, je les ai découverts à peu près à la même période où j'ai découvert d'autres films majeurs aussi. Ça s'est fait un peu parmi d'autres découvertes, quoi. Et je pense que j'ai pas réalisé.
C'était un cinéaste et pas forcément votre oncle.
Bah c'était pas un cinéaste parmi d'autres, mais je pense que j'ai vraiment dû faire un chemin avant de réaliser vraiment ce que ça représentait pour moi. Moi, ce qui était surtout marquant quand je voyais ces films, c'est que ça me renvoyait une image de l'Afrique avec laquelle je me sentais en adéquation avec cette Afrique-là. Ce qui n'était pas forcément le cas avec d'autres films sénégalais ou africains que je voyais de loin qui pouvaient me mettre mal à l'aise parce que je pense qu'il y avait, il devait y avoir une image de l'Afrique véhiculée qui me semblait pas partir de l'intérieur en fait, qui me semblait déjà un peu filtrée par le colonialisme, je trouvais, enfin voilà, c'était des films très enfermés dans les questions coloniales inconsciemment en fait, alors que le cinéma de Toki Buki par exemple, quand la première fois que je l'ai vu, je pense que je me suis dit mais cette Afrique là, voilà, c'est cette Afrique là que j'ai vue en y allant et c'est la vraie Afrique que j'aime, que je connais et que je veux partager, quoi.
Nous allons écouter la voix de votre oncle, donc Djibril Diop Mambéty, qui va expliquer à quel point c'est facile de faire du cinéma.
Pour faire du cinéma, c'est simple. Il faut fermer les yeux. Est-ce que vous avez fermé les yeux? Alors vous fermez les yeux. Vous voyez des points de lumière. Et puis, on ouvre les yeux. On a une histoire.
Nous venons d'entendre la voix de Djibril Diop Mambéty, qui est donc un cinéaste, peut-être l'un des plus grands cinéastes du continent africain, qui est mort en 1998, qui a signé une trentaine de longs métrages très importants dans l'histoire de la cinématographie mondiale. Et Toki Buki, dont vous êtes inspiré, Mati Diop, donc 30 ans ou 40 ans après.
40 ans, ouais.
40 ans après, ouais, c'est ouais. Une histoire absolument incroyable. D'ailleurs, cette histoire de revisitation par sa nièce d'un des films très importants de l'histoire de la cinématographie mondiale. Toki Buki, c'est l'histoire, ça a été tourné en 1972, je crois.
Ouais, c'est ça.
Et c'est l'histoire, donc, d'un jeune homme et d'une jeune femme qui s'aiment éperdument. Ça se passe à Dakar. Et pris par cet amour, ils vont décider de faire des plans d'avenir. Et elle va décider de partir vers la France. Lui a promis qu'il allait s'embarquer avec elle à bord de ce bateau qui doit sceller leur destin vers un avenir commun en France. Et lui ne va pas partir. Mais ce qui paraît absolument incroyable aujourd'hui, c'est le style. C'est le mélange d'incantation, de poésie, de fulgurance qu'il y a à l'intérieur de ce cinéma. Donc, comment vous avez vu la première fois ce film, Toki Buki, et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de revisiter ce genre cinématographique pour en faire un film à votre manière, vous, une cinéaste d'une trentaine d'années ?
Il y a plusieurs raisons, en fait. Ça part d'un carrefour de questionnement. Et puis, c'est arrivé à une période assez particulière pour moi. En fait, je venais de tourner avec Claire Denis dans 35 Roms. C'était ma première expérience en tant qu'actrice. Ça a été un moment très, très marquant pour moi. J'avais déjà réalisé un cours à ce moment-là, hein, donc j'étais déjà dans l'optique de faire des films, dans le désir de faire des films. Et c'est aussi en 98 que c'était les 10 ans de la mort de Djibril. Et je crois que j'avais pas vraiment cette absence, je l'avais pas vraiment mesurée quoi jusqu'à présent. Et donc après le film de Claire Denis, j'avais quelques mois avant d'intégrer le Frénois, justement, l'école dont on vient de parler. Donc j'avais du temps et j'ai eu envie de partir à Dakar, justement, faire des images, faire quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis mise à me poser pas mal de questions sur mon rapport au cinéma, sur les origines familiales de à la place du cinéma dans ma famille, quoi. Et donc, je me suis mise à parler avec mon père des films de Djibril. Finalement, on n'en avait jamais vraiment beaucoup parlé ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en parlant finalement de Djibril, de ses films, en parallèle, ça a un peu tissé l'histoire de notre histoire familiale. Donc la piste du cinéma et celle de notre histoire familiale se rejoignaient vraiment. C'est assez étonnant la façon dont m'a été transmise cette histoire familiale, interconnectée avec celle du cinéma de mon oncle, en fait. J'ai découvert beaucoup, beaucoup de matière en très peu de temps. C'était assez éprouvant. Je me suis rendu compte que les films de Djibril étaient très liés à sa vie intime aussi, donc à notre histoire familiale. Mon père m'a dit que Tukibuki, finalement, c'était toute notre histoire. Donc, je me suis mise à regarder ce film autrement, déjà, plus comme un accès à notre histoire qu'un film... qu'un simple film. Et puis, en grattant plus loin, je me suis interrogée sur ce qu'étaient devenus les acteurs du film, et c'est là que j'ai appris que finalement, ils avaient poursuivi la trajectoire de leur personnage fictif, que Anta, qui avait pris le bateau dans le film en 72...
Donc la jeune femme.
La jeune femme vivait en Alaska et travaillait sur une plateforme pétrolière. Donc j'ai été quasiment prise de vertige quand j'ai appris ça. Je trouvais ça d'une puissance romanesque incroyable. Et que Magaï n'était jamais partie. Et
comme en fait, dans le film.
Comme dans le film.
Et d'ailleurs, on ne comprend pas du tout pourquoi, après avoir élaboré ce plan de partir en France, de se rêver une vie commune, lui, sans le dire à son amoureuse, il ne va pas prendre le bateau.
Non, non.
Il ne va pas franchir la passerelle.
Ouais. Et donc...
Et ça reste un mystère dans le film, d'ailleurs.
Oui, c'est très animal, c'est très instinctif, quoi. C'est vraiment une sorte d'instinct de survie qui le prend. Et je pense que lui-même, au moment où il recule, il sait même pas exactement ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est vraiment de la pure survie, quoi.
Mais ce qui est incroyable, Mathilde Diop, c'est que en faisant cette enquête au Sénégal, vous êtes rendu compte que ces deux personnes donc avaient rejoint la fiction.
Exactement.
Pour que ça devienne leur propre vie.
Ouais.
Et que le héros du film, vous l'avez retrouvé, eh bien, il est toujours dans cette espèce de recherche de lui-même.
En tout cas, il est toujours à Dakar, dans sa recherche de lui-même. Ça, je comme tout le monde, j'imagine, mais plus ou moins.
Mais il a été très marqué par son expérience cinématographique.
Ouais, absolument, absolument. Ce qui m'a touchée en entendant qu'il n'était jamais parti, c'est l'immobilité, quoi, que ça racontait derrière, quoi. Il y a comme quelque chose qui s'est figé, quoi, dans le temps, depuis ce film. Mais d'ailleurs, ça me permettait aussi de parler à travers cette immobilité-là de la question du cinéma au Sénégal aujourd'hui, quoi. Donc en fait, Tukibuki, moi, c'était un prétexte aussi pour parler de beaucoup d'autres choses. Je ne voulais pas faire un film pour directement parler de mon oncle, de Tukibuki. C'était une façon de parler du présent en invoquant le passé, de faire des ponts entre la génération de mon oncle et la mienne, d'un point de vue cinématographique, politique, intime aussi. Mais c'était surtout un argument, quoi. Un argument fort pour parler d'aujourd'hui, du présent, du cinéma et de politique. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un film du présent, quoi.
Nous allons écouter la voix de Larry Clark qui va parler de son style à la sortie de son film Ken Park. C'est une archive de Charivari, l'émission de Frédéric Bonneau. C'était le 8 octobre 2003.
Dans Ken Park, vous ne verrez pas comme dans Kids des mouvements de caméra. La caméra est là, mais elle n'est pas un acteur. On laisse les acteurs développer l'histoire et en fait, on est un spectateur complètement immergé. En quelque sorte, c'est le contraire de Kids, qui était un documentaire de façon la plus puriste. Et Ken Park est un film très, très travaillé au niveau du classicisme.
And this film is filmed in the totally opposite way. So no shaky camera in this movie.
Est-ce que vous vous considérez vous-même comme un moraliste?
I always have. My artist friends laugh at me when I say that, but you know, there's always a moral center in all my work. I mean, certainly Ken Park is a film.
Je me considère comme un moraliste. Certains de mes amis artistes se moquent de moi quand je dis ça, mais vous avez raison. Ken Park est un film moraliste. Je connais mon travail et on peut parler en ces termes.
en quoi c'est un film moraliste? Parce que vous essayez de montrer la réalité d'une famille et la réalité de la jeunesse par rapport aux adultes, sans tricher, avec beaucoup de frontalité et de crudité. C'est là où le film est moral, dans sa volonté de ne pas tricher.
I want to, yes, exactly. I do. I am interested in showing real life and trying to say that this is the way that it really is.
Effectivement, j'essaie de montrer la vie comme elle est, et c'est mon souci premier.
I think that that all my films show there are consequences for our action. All my work shows that. It's tough to put in words. If you're a visual artist, there's so many things coming in to my work because it is life, and life is certainly unexpected. And I think that I'm always looking for the unexpected action, the unexpected image, because that's what life is. And it's not what we... Whatever we think is going to happen, usually that's not what happens.
En fait, ce que je veux montrer, donc, c'est la vie en elle-même. C'est difficile de mettre des mots là-dessus. La vie et tout ce qu'elle nous réserve d'inattendu, toutes les surprises, tout ce qui vraiment rentre dans ce spectre de vie. Donc c'est global complètement, c'est une approche très intègre, très authentique.
Nous venons d'entendre la voix de Larry Clark, Mati Diop, et je crois que c'est l'un des cinéastes qui vous influence.
En tout cas, il a été très très. Enfin, ces films, notamment Kids, ont été oui très très importants pour moi, adolescente. Je l'ai découvert très très jeune, Kids. Ça m'a. Oui, c'est un moment où je passais pas mal de temps à New York, et c'est un. Je me suis sentie très très proche de sa façon de d'être proche de ces acteurs, de cette énergie sauvage, du rapport à la ville, à la chair.
Caméra aussi,
tout à fait. Ouais, c'est vrai que je m'en suis un petit peu éloignée, mais les premiers films que j'ai faits, j'avais un rapport très fusionnel en fait aux personnes que je filmais, et pour moi ça passait vraiment effectivement par le cadre, par la caméra, c'était un engagement physique très fort, et je pense que c'est surtout à ce niveau là que Larry Clark m'a vraiment influencé à mes débuts.
Et il y a aussi, chez vous, comme chez tous les très jeunes cinéastes, une manière aussi de filmer la vie telle qu'elle surgit, telle qu'elle arrive, comme vient de le dire Larry Clark là, il y a quelques secondes. Et quand on voit le début de votre film, Mati Diop, et qui se passe dans un atelier de découpage de boucherie, on se dit qu'il y a une proximité très grande entre les arts plastiques, le cinéma et la tentative de restituer la réalité. C'est-à-dire que pour vous, le scénario, ce n'est pas l'important.
Dans Mille Soleils, c'est très écrit. C'est d'ailleurs une fiction. Dans les festivals, il est souvent considéré comme documentaire, parce que justement, je crois que les gens ne savent pas forcément comment le considérer, mais je pense qu'il est vraiment là, au croisement des deux. C'est un film non identifié, et tant mieux. Et puis le sujet du film, c'est justement cette frontière invisible entre réel et fiction, donc c'est vraiment le sujet du film. Mais... Enfin, Mille Soleils est très écrit. Après, je pense que pour moi, l'approche... documentaire et le c'est une tactique de mise en scène. Enfin, je me pose vraiment que des questions de mise en scène, et si je dois passer par un ancrage dans le réel pour par exemple la scène des abattoirs, c'est plein de choses à la fois. Déjà, j'avais envie de revenir sur certains lieux phares de Tukibuki. Bon, c'est celui-là que je trouvais le plus intéressant. Il se trouve que c'est un endroit en plus qui n'avait absolument pas bougé. Donc, en plus de la scène, il y a aussi hors champ justement ma démarche, moi, de cinéaste, de revenir sur ce lieu 40 ans plus tard qui n'a pas bougé. Donc, ça raconte aussi un état des lieux du Sénégal, hein, un endroit qui n'a pas bougé en 40 ans, quoi, qui n'a pas bougé, qui est resté le même. Il y a juste plus de taches de sang sur le mur. C'est assez impressionnant d'expérimenter, même physiquement, cette immobilité. Et c'était aussi un rite de passage pour moi, de à mon tour d'aller filmer. C'est bête, faut quand même le faire, hein, de rentrer dans ces abattoirs. J'ai mis une heure à rentrer dedans, enfin c'est très éprouvant. Et puis après il y a ce qu'on voit et dans l'histoire c'est purement scénarisé. C'est le parcours final de ce berger qui, après être allé chercher son troupeau dans les champs, l'emmène à l'abattoir. Et c'est pour moi, ça racontait. J'avais envie de montrer Magaï comme s'il n'était jamais sorti de sa fiction, en fait. Mille Soleils reprend là où Tukibuki s'est arrêté. C'est une boucle, en fait. Il y a ni commencement ni fin. Et du coup, à l'intérieur de Mille Soleils, qui est une pure fiction, hein, il y a des moments effectivement que j'arrache au réel, mais parce que ce serait aussi absurde si on se pose des questions de mise en scène de reproduire cette scène. C'est aussi simple que ça. Il y a certaines scènes qui sont complètement recomposées, mises en scène avec des acteurs, et puis d'autres qui sont vraiment brutes et réelles, quoi.
Nous allons écouter un extrait de votre film, de Mille Soleils, notamment la chanson de Tex Ritter. Un extrait de votre film, Mati Diop, Mille Soleils, qui va sortir. Donc la musique était très importante dans Tukibuki, et dans votre film, Mille Soleils, elle l'est tout autant. Et la chanson qu'on vient d'écouter, elle est très mélancolique, au fond. Elle signe la séparation, elle signe une sorte de fin de l'histoire.
Oui, et qui commence d'ailleurs. Donc c'est vraiment l'idée de cette boucle encore. En fait, j'ai entendu depuis très longtemps, on me raconte que Le train sifflera trois fois de Fred Zinman est le film qui a le plus, on parlait de Larry Clark tout à l'heure, bah pour Djibril c'était ce film-là, Le train sifflera trois fois. Et en fait dans les années 60, en fait il y avait beaucoup de projections en plein air, de western dans les villages, dans les rues de Dakar. Et je crois que c'est un film qu'il a vu très tôt. Moi c'est un film que j'ai découvert très tard, et en fait... quand je l'ai vu, j'ai tout de suite compris la proximité de Djibril au personnage du shérif Will Kane. C'est vraiment la figure du héros solitaire, seul contre tous. Et réinjecter cette chanson et quelque chose du train sifflera trois fois dans Mille Soleils, c'était une façon de parler de la genèse en fait des films. Je pense que sans le train sifflera trois fois, il y a pas Tukibuki n'existe pas. C'est vraiment moi, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup dans Mille Soleils. C'est d'où vient un personnage, d'où vient un film, à quel point il est lié à son à sa vie intime, à son enfance, à son histoire
et à ses influences cinématographiques qui ont donné naissance au film.
Cinématographiques, voilà, exactement. Donc
une revisitation de mémoire au fond.
Exactement, ouais. Et puis voilà, et puis j'ai trouvé cette chanson absolument magnifique et je trouvais que ça oui, c'est une sorte de monde intérieur du personnage, quoi. J'insiste sur le fait que Tukibuki est un prétexte. Je parle pas de mon oncle, je parle pas de Tukibuki et je suis pas dans la nostalgie, c'est vraiment un film du présent, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter autour de Tukibuki plutôt que de Tukibuki, en fait. Et moi, j'ai aussi fait ce film pour m'inventer mon rapport aussi à ce film qui n'est pas nostalgique, qui n'est pas un rapport du passé, qui est au contraire quelque chose que je veux réactualiser, faire exister dans le présent aujourd'hui avec mon langage de cinéaste. Et du coup, je sais justement pour... éviter de parler de Tukibuki comme d'un film, comme je pourrais parler de n'importe quel autre film, que j'en ai fait un film. Enfin, c'est en termes de rapport, c'est très différent.
Oui,
parce
d'accord.
que je ne saurais pas forcément justement en parler comme.
Mais nous, quand on voit votre film, on se dit qu'il y a toute une démarche, d'ailleurs passionnante, de votre part, de revisiter une histoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, qui est une histoire familiale aussi. Mmh. Vous avez découvert votre double culture peut-être par la nouvelle vision de ce film, mais il y a aussi cette façon, dans votre film, Mille Soleils, il y a une façon de faire le point peut-être avec ce qui se passe au Sénégal, à différents niveaux, déjà le cinéma, puisque au début de votre film, Mati Diop, on voit qu'il y aura une projection de Tukibuki sur une place de Dakar. Mmh. Et on se dit que... on ne sait pas s'il y a beaucoup de spectateurs. Vous ne montrez pas le rapport entre spectateur et écran. Mais on se dit que du monde du cinéma sénégalais, on ne voit plus beaucoup d'œuvres, hélas. Et on se dit que peut-être montrer un film aujourd'hui au Sénégal, ben, ce n'est pas si évident. Et ça n'attire pas forcément les foules.
Mais c'est justement l'expérience que je voulais faire au présent. C'est l'une des idées fixes de Mille Soleils, c'était confronter Tukibuki au présent. J'étais vraiment curieuse de faire l'expérience d'une projection aujourd'hui de Tukibuki face à un public de jeunes dans la rue, jusqu'à presque assumer le fait de le mettre en place, de le mettre en scène et qu'il y ait peu de monde. J'étais prête à faire ce constat en direct de la fiction, quoi.
Donc c'est vous qui avez proposé projection de ce film.
Ouais, qui ai proposé cette projection qu'on a faite dans un quartier populaire de Dakar. Il y a une interaction forte entre l'écran et entre le film et le spectateur dans Mille Soleils. Enfin, j'insiste justement beaucoup sur les visages, sur les regards qui fixent l'écran. Enfin, il y a vraiment un dialogue entre la toile et le public. C'est vraiment encore une fois une façon de faire exister le film comme une matière vivante et pas d'utiliser des images d'archives du passé, quoi. Et c'était un très beau moment parce que j'ai pas forcément pu prendre le temps de parler avec ce public-là ce soir-là du film, mais il y avait pas mal de monde. Mais en fait, lors d'un voyage précédent que j'avais fait de préparation, j'avais justement fait cette expérience de projection dans plusieurs quartiers où, pour le coup, j'avais pris le temps de parler avec les gens après. Et ça, voilà, ça provoquait des débats assez passionnants sur. En fait, quand j'ai fait cette préparation, c'était justement un moment où beaucoup, beaucoup de jeunes prenaient eux-mêmes des pirogues pour quitter les côtes sénégalaises et rejoindre l'Europe. Donc, montrer Tukibuki à cette période-là, c'était hyper intéressant parce que ça permettait vraiment un pont direct entre la question de l'exil, de l'émigration. Et alors que là, aujourd'hui, j'ai tourné le film quelques mois après le printemps dakarois, après les émeutes qui ont mis le président Ouad à la porte. Et donc,
émeutes dont il est beaucoup question dans votre film, notamment par l'intermédiaire du chauffeur de taxi
qui
dit
lui-même
au personnage qui doit avoir une soixantaine d'années, que lui, il fait partie de la génération qui n'a jamais travaillé pour l'émancipation du peuple, alors que lui, le jeune, il continue à s'insurger contre l'ordre établi.
Exactement, oui. Mais ça, pareil, c'était une façon de mettre en collision ces deux générations. Et puis, moi, je pense que derrière ce personnage de chauffeur de taxi, qui d'ailleurs est vraiment un acteur des faits, hein, qui est rappeur, qui fait partie du mouvement Y en a marre.
Ce mouvement existe encore aujourd'hui ?
Oui, il existe encore. Il existe encore. Je pense qu'il est encore assez actif, qui est très vigilant. Moi, derrière ce personnage, voilà, je me sers de ce personnage aussi pour poser des questions à cette génération, parce que je fais aussi des films à Dakar pour apprendre à connaître cet endroit, pour le questionner, le découvrir, et du coup. Moi, c'est vrai que voilà, ce personnage représente vraiment la jeunesse actuelle contemporaine du Sénégal, mais c'est aussi, moi, une façon de derrière lui de poser des questions à Maga et donc à mon oncle au sujet, indirectement du cinéma, parce que pour moi, parler des dernières émeutes versus 68, c'est aussi une façon de parler de l'état du cinéma. Voilà, quel cinéma vous laissez aux jeunes cinéastes sénégalais? Qu'est-ce qu'il y a à construire, à reconstruire?
Et pourquoi si peu de cinéastes, à votre avis?
Mais c'est avant tout un problème de système, et puis je pense que la décolonisation elle se joue à plein de niveaux, et je pense que notamment
dans l'idée de la représentation de soi-même.
Ouais, exactement, tout à fait, ouais.
Et donc ça, c'est aussi un des thèmes de votre film. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà des générations, dans les années 60, la possibilité de l'atteinte de l'Europe, c'était un vœu pour certaines de ces personnes. Aujourd'hui, ça reste...
Oui. C'était un fantasme plus romantique, j'ai l'impression, dans les années... En tout cas, tel que Tukibuki le montre Enfin, tel que les personnages... tel qu'on le voit dans Tukibuki, moi, ça me paraît plus pop, plus romantique. Alors que voilà, la jeunesse des années 2000 à Dakar, c'est une autre dimension. Il y a une... La question de la survie est beaucoup plus centrale, quoi.
Oui, mais il y a aussi, dans le regard des autres, alors de la génération de ceux qui ont 40-50 ans aujourd'hui, il y a aussi le fait que, pour certains qui n'ont jamais traversé l'océan, eh ben, ça reste comme quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Ça reste comme une sorte de symptôme de leur non-engagement. Et notamment dans cette scène de Mille Soleils, Mati Diop, où il y a la présentation... du personnage principal, donc, de Tukibuki, ouais. Ben c'est comme si les autorités officielles lui reprochaient de ne pas avoir été en Europe.
Ah oui, vous parlez de la scène où ses amis le... je pense qu'il, dans cette scène-là, il lui reproche surtout de n'avoir rien fait du rôle que lui a confié Djibril, de n'avoir rien fait de ce qu'on a mis, de ce qu'on lui a mis entre les mains, quoi. De pas avoir été plus loin, de pas avoir été plus ambitieux, de pas avoir et ça va effectivement avec l'idée de pas être parti, de pas avoir fait carrière hors frontières. Je me suis inspirée d'une scène qui s'est vraiment passée dans la vie, un différend entre Maga et un de ses amis qui lui reprochait exactement ça, de pas avoir su se réinventer, quoi.
Mais lui, il est très heureux. En tout cas, vous le montrez tel.
Il faudra lui demander.
Vous n'en êtes pas sûre?
Bon, je pense que c'est difficile de...
Il est très gay,
c'est une ville qu'il n'a pas su quitter, qu'il n'a pas pu quitter. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est... Cette même ville se referme, quoi, de plus en plus sur lui, que c'est une ville qui a changé sans l'attendre, en fait, et qui s'y sent à l'étroit.
Alors, vous êtes aussi actrice, vous le disiez tout à l'heure, Mati Diop. Nous allons écouter un extrait de 35 Roms de Claire Denis, où vous interprétez un des rôles principaux.
Merci. tellement que tu te sens pas obligé de t'occuper de moi. Je voudrais que tu penses à toi.
Non, tu veux te débarrasser de moi. Tu m'aimes plus.
Sens-toi libre.
Très beau film de Claire Denis, 35 Roms. On vient de vous entendre dans ce court extrait. Vous jouez donc la fille de Alex Descas. Que vous a apporté ce rôle d'actrice et comment arrivez-vous à être aussi naturelle?
Merci. Mais ça a été, je pense que c'est l'expérience cinématographique la plus importante pour moi. Et d'ailleurs, ça a été mon école, en fait. C'est ma réelle école de cinéma, ce film avec Claire Denis. J'étais déjà une grande admiratrice de ses films, que je connaissais très bien, que j'avais vu et revu. Donc c'était absolument magique, quoi, de passer de l'autre côté, littéralement, avec elle. Et en fait, ça a avant tout confirmé mon désir de faire des films, d'être réalisatrice. Ça m'a donné très envie de continuer à jouer, mais pas à tout prix.
Oui, parce que vous avez joué dans beaucoup d'autres films.
J'ai joué dans un autre long-métrage d'Antonio Campos, 4 ans plus tard, et puis dans pas mal de courts-métrages. J'aime beaucoup ça, j'en ai vraiment le désir. Mais c'est vrai qu'en sortant de 35 Roms, ce qui s'est réaffirmé en moi, c'est surtout le désir de faire des films. Et voilà, et c'est difficile d'exprimer exactement ce que ce film m'a apporté, parce que je pense que à chaque nouveau film, à chaque nouvelle expérience de réalisation, je vois bien tout ce que ça m'a transmis. Mais c'est
Claire Denis est obsédée par l'Afrique, hein, et elle a fait de nombreux films sur l'Afrique, justement. Donc il y a peut-être aussi une filiation.
Je pense qu'après je pense qu'elle est surtout obsédée par ses acteurs et que Alex Descas, elle l'a choisi pour l'acteur qu'il est, plus parce qu'il est noir, en fait. Elle aurait pu proposer à peut-être un Vincent Lindon, je sais pas. En tout cas, je pense que c'est à lui qu'elle pensait comme acteur avant tout pour ce rôle. Et voilà. Et il se trouve que dans 35 Roms, je suis issue d'un mariage antillais et allemand. Donc, elle cherchait une métisse. C'est vrai que voilà, ça fait partie des choses qui nous rapprochent. Mais je pense que c'est... très loin d'être uniquement l'Afrique ou cette question-là qui nous rapproche. Je pense que c'est surtout un rapport au cinéma, un langage cinématographique vraiment commun, quoi.
La projection de votre film « Mille soleils » a-t-elle pu avoir lieu à Dakar ?
Pas encore. Non, c'est prévu pour avril. C'est beaucoup trop long. C'était pas possible avant. Donc, cela dit, moi, quand je joue dans des films, je les découvre très longtemps après aussi. Hein. C'est assez fou. On a le temps d'oublier les films dans lesquels on joue, en fait. Il peut se passer quasiment un an, quoi. Donc, Maga Enyang l'a toujours pas vu. Il va le voir en avril. Et je suis très, très, très impatiente d'avoir les réactions de Maga et puis aussi du public, quoi.
Alors, votre film a obtenu le grand prix du Festival du documentaire de Marseille.
Oui, je précise juste qu'en fait, c'est plus uniquement documentaire. Ça s'est ouvert à la fiction depuis 3-4 ans. Et ça a du mal à rentrer dans la tête des gens parce que ça a tellement été associé au documentaire que voilà. Mais ça s'est vraiment ouvert à un cinéma, documentaire-fiction. Mais enfin, moi, par exemple, le mien, je le considère comme une fiction. Et voilà, il y a été... y a été invité, mais c'est, voilà, ça s'est vraiment ouvert à la fiction.
C'est un film de 45 minutes. Mm-hmm. Est-ce que ce film, avec les récompenses qu'il vient d'obtenir, va vous donner l'énergie, la vitalité dont vous ne manquez pas pour continuer à faire votre travail de cinéaste?
Oui, c'est hyper encourageant, quoi, cette sortie. C'est une vraie surprise, parce que c'est vrai que c'est un format très particulier, que rares sont les films de ce format-là qui sortent en salle. Donc c'est très heureux, un film qui sort, qui rencontre un public des salles, indépendamment des festivals. Donc je suis très, ouais, très portée par cette sortie, qui restera petite parce que c'est un petit film. Mais le luxe, c'est que c'est assez rare de d'être en dehors des enjeux économiques pour un film. Du coup, on profite vraiment de la simple joie qu'un film sorte et qui rencontre un public. Donc je profite de ça, et évidemment que ça me porte beaucoup pour la suite. Ouais, tout à fait.
Merci Mathie Diop.
Mais merci beaucoup à vous de m'avoir
invité.
Et bravo
pour Mille Soleils.
Merci.
Valérie Lavalard, Brigitte Bouvier, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost, Didier Lagarde, nous vous souhaitons tous une bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. Dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.